VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 25 mai 2023. Ici aux États-Unis, le chef d'extrême droite Stewart Rhodes a été condamné à 18 ans de prison pour sédition dans le cadre du procès de l'attaque du Capitole. L'Afrique ne doit pas redevenir un champ de bataille géostratégique, prévient l'Union africaine.
On ne peut pas dire vraiment que le bilan ait été à 100% positif, en dehors évidemment de certaines avancées qui ont pu être enregistrées ça et là.
Henri Nzouzi nous situera dans la partie magazine sur les défis du continent à l'occasion de la journée de l'Afrique. Au Soudan, les deux camps s'accusent de violer la trêve, les civils toujours pris au piège des combats. Fulgence Kayishema, un des fugitifs les plus recherchés dans le cadre du génocide rwandais, a été arrêté en Afrique du Sud. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. On commence par les États-Unis. Stewart Rhodes, fondateur de la milice d'extrême droite Oath Keepers, a été condamné aujourd'hui à 18 ans de prison pour sédition, la sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole. Félicie Passis Zembrou.
Il aura adopté jusqu'au bout une posture de défi, mais les 12 jurés l'ont jugé coupable de sédition, l'un des crimes les plus graves qu'un Américain puisse commettre. Les procureurs avaient requis 25 ans. Le juge fédéral Amit Mehta a justifié la sévérité de la peine par son rôle et son absence de remords. « Vous représentez une menace persistante et un danger pour le pays », a cédé le magistrat. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump avaient attaqué le Congrès au moment où les élus devaient certifier la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle. Stewart Rhodes, 58 ans, est connu pour son cache-œil noir, était resté à l'extérieur du Capitole. Selon l'accusation, il a dirigé ses troupes par radio comme général sur le champ de bataille. Cet ancien militaire et diplômé en droit de l'Université Yale a fondé les Oath Keepers en 2009 pour lutter contre l'État fédéral jugé oppressif. L'enquête qui a suivi l'assaut du Capitole a permis d'arrêter plus de 1000 personnes. Près de 300 ont écopé de peines de prison, dont la plus lourde jusqu'ici était de 14 ans. Seuls 6 membres des Oath Keepers et 4 Proud Boys ont été jugés coupables de sédition à l'issue de 3 procès distincts à Washington.
L'armée américaine aura bientôt un nouveau chef d'état-major. Le président Joe Biden a annoncé aujourd'hui son intention de nommer le général Charles Brown, qui commande l'armée de l'air au sommet de la hiérarchie militaire. Selon la Maison-Blanche, il va succéder à Mark Milley, l'actuel chef d'état-major en poste depuis le 1er octobre 2019 et dont le mandat arrive à terme. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, il deviendrait le second Africain-américain a servi comme le plus haut gradé de l'armée, la plus puissante du monde après Colin Powell dans les années 90. Les discussions entre la Maison-Blanche et l'opposition républicaine pour éviter un défaut de paiement sont productives, a assuré aujourd'hui la porte-parole de l'exécutif américain. Les négociations continuent, a assuré Karine Jean-Pierre, à une semaine du 1er juin, date après laquelle la première puissance mondiale pourrait faire banqueroute. Le patron des opérations de paix des Nations Unies, incarné par les casques bleus, fut les divisions entre grandes puissances au Conseil de sécurité de l'ONU, fragilisant ses forces de maintien de la paix qui auront 75 ans lundi. Cette année, en raison du long week-end férié ici aux États-Unis pour Memorial Day, l'ONU a célébré aujourd'hui ce 75e anniversaire en mémoire des plus de 4200 casques bleus tués pour la cause de la paix depuis 1948, selon le secrétaire général Antonio Guterres. Et même si le Conseil renouvelle régulièrement les mandats des missions de maintien de la paix, le chef des opérations de maintien réclame davantage d'unité des États membres afin qu'ils puissent peser de manière active et unie sur la mise en œuvre d'accords de paix et de processus politiques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle les pays du continent à résister à l'instrumentalisation des grandes puissances sur fond de conflit en Ukraine. Il a déclaré ce jeudi que l'Afrique ne doit pas redevenir un terrain de bataille géostratégique. Le point avec Eric Manirakiza.
Dans ce contexte international d'affrontement, des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique, recréant de ce fait une nouvelle version de la guerre froide, a lancé le dirigeant de l'organisation panafricaine. Moussa Faki Mahamat a rendu hommage au succès de l'OIWA, soulignant les réalisations telles que les indépendances nationales, la victoire contre l'apartheid, les progrès économiques significatifs, le développement des sports, des arts et le renforcement du rôle international de l'Afrique. Cependant, il a également mentionné les facteurs négatifs qui pèsent sur le continent, tels que les changements inconstitutionnels de gouvernement qui entraînent l'oppression et la répression des libertés, l'insécurité croissante, la propagation du terrorisme, l'extrémisme violent, la circulation et contrôlée des armes et les effets négatifs du changement climatique. Moussa Faki Mahamat a prononcé ces mots au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, à l'occasion de l'anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine fondée le 25 mai 1963 et devenue l'Union africaine en 2022.
Au Soudan, l'armée et les paramilitaires s'accusent mutuellement de rompre la toute dernière trêve entrée en vigueur depuis lundi soir. Selon les Nations Unies, cette guerre dans ce pays d'Afrique de l'Est a fait plus de 1 800 morts, 1 million de déplacés et au moins 300 000 réfugiés. Lionel Gaïma.
La nuit dernière, des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont accusé l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan d'avoir lancé une série d'attaques et se prévalant d'avoir abattu un avion de combat MiG. Pour sa part, l'armée dit avoir contré des attaques de blindés des milices du soutien rapide en violation totale de la trêve. Un cessez-le-feu a été signé et les combats continuent. C'est inacceptable, c'est à l'armée Anatété, l'émissaire de l'ONU pour la Corne de l'Afrique. À Khartoum, les habitants restent terrés chez eux, souvent sans eau ni électricité et avec des rares réserves de nourriture. La situation est particulièrement critique au Darfour occidental, proche du Tchad. Des gangs à moto empêchent fonctionnaires et civils de se déplacer pour mettre en place les couloirs humanitaires prévus par le cessez-le-feu, affirme Toby Howard, du haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Selon lui, la ville de Zalengay est assiégée par des milices armées. Les bureaux de l'ONU, les administrations, les banques et des maisons ont été pillés et les civils ne peuvent pas accéder aux établissements de santé.
Et les États-Unis ont déploré aujourd'hui des violations du cessez-le-feu au Soudan, appelant l'armée et les paramilitaires à respecter la trêve. Nous continuons de voir des violations à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest du pays, y compris de l'artillerie, des avions de combat et des drones, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Nous faisons pression sur les parties, sur ces violations présumées, a-t-il affirmé à la presse, en soulignant que les États-Unis se réservaient le droit d'imposer des sanctions si nécessaire. Il s'est toutefois refusé à parler d'un calendrier ou qui serait visé. Fulgence Kayishema, un des 4 fugitifs les plus recherchés pour leur rôle dans le génocide de 1994 au Rwanda, a été arrêté hier en Afrique du Sud. C'est ce qu'ont annoncé les procureurs de l'ONU enquêtant sur l'affaire. Les précisions de John Lindon.
Il était en fuite depuis 2001, a précisé le mécanisme international chargé d'achever les travaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Selon l'acte d'accusation, M. Kayishema a assassiné avec d'autres individus plus de 2000 hommes, femmes, personnes âgées et enfants réfugiés dans l'église de Nyangé, dans la commune de Kivumu, le 15 avril 1994. Il aurait directement participé à la planification et à l'exécution de ce massacre, a précisé le tribunal, en se procurant et distribuant de l'essence pour incendier l'église avec les réfugiés à l'intérieur. Fulgence Kayishema, inculpé de génocide, de complicité de génocide, de complot en vue de commettre le génocide et des crimes contre l'humanité, a utilisé de nombreux pseudonymes et de faux documents pour dissimuler son identité et sa présence, a précisé le mécanisme.
Fulgence Kayishema va comparaître demain vendredi devant un tribunal en Afrique du Sud dans l'attente de son extradition vers le Rwanda, a déclaré aujourd'hui la police sud-africaine. Le gouvernement d'Union nationale de Tripoli a déclaré aujourd'hui avoir mené des frappes aériennes contre des trafiquants de carburant, de drogue et d'êtres humains dans les zones côtières de l'ouest du pays. 3 habitants de la ville de Zawiya, à l'ouest de Tripoli, ont déclaré avoir entendu des explosions dans la ville et les médias locaux ont rapporté que des drones ont ciblé des factions armées dans le pays. Et puis, dans l'État semi-autonome du Somalie et du Puntland, des milliers de personnes ont participé aujourd'hui à des élections locales historiques. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Lionel Gaïma.
La Côte d'Ivoire, exportateur de thon, va instaurer des périodes de fermeture de pêche en mer début 2024 pour les navires thoniers étrangers. Le pays va instaurer un repos biologique annuel dans les zones marines ivoiriennes, a annoncé Sidi Thiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Des peines d'un an à 5 ans de prison et une amende de 50 à 300 millions de francs CFA sont prévues pour les contrevenants. En Afrique du Sud, la Banque centrale a augmenté son taux d'intérêt principal pour atteindre son plus haut niveau depuis 14 ans. La banque a relevé le taux de référence de 0,5 points pour atteindre 8,25%. L'inflation est tombée à son niveau le plus bas, mais les prix des denrées alimentaires restent élevés avec des augmentations records au cours de 12 derniers mois. Le pays est frappé par des délestages records qui coûtent chaque jour plus de 50 millions de dollars en perte de production. Pour terminer, aux États-Unis, les élus du Congrès n'ont pas trouvé de compromis budgétaire et ont regagné jeudi leur circonscription faute d'un accord sur le relèvement des plafonds de la dette. À partir du 1er juin, les États-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement, incapables d'honorer des engagements financiers, qu'il s'agisse des salaires, de retraite ou des remboursements à leurs créanciers.
Place maintenant au sport avec Eric Panigakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En Espagne, le Real gagne et les marques de soutien affluent pour Vinicius.
Des États-Unis à l'Espagne, en passant par l'ONU, les marques de soutien continuent d'affluer en faveur de Vinicius, cible d'insultes racistes dimanche à Valence et absent pour blessure pour le match du Real Madrid, vainqueur mercredi soir du Rayo Vallecano, 2-1 grâce à un but de Rodrigo. Le Brésilien a célébré point levé façon Black Power et tête baissée comme les sprinteurs américains Tommy Smith et John Carlos au JO de 1968 à Mexico. Un geste devenu depuis un symbole de la lutte antiraciste. Je vous aime, merci, 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 a réagi Vini sur Twitter après le match. Avant le coup d'envoi, les joueurs des deux équipes ont posé derrière une affiche raciste hors du football, produit de la toute récente collaboration de la Liga, de la Fédération espagnole et du Conseil supérieur des sports espagnols dans la lutte antiraciste.
Fiasco du Stade de France, l'UEFA s'est concentrée sur l'accueil des supporters.
Et non, après le fiasco sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions 2002, l'UEFA a pris une série de mesures pour améliorer l'accueil des supporters, mais devra aussi, à plus long terme, repenser la désignation de ses pays hôtes.
Quelle responsabilité porte l'UEFA dans les incidents du Stade de France ?
L'UEFA porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre et conclué mi-février une enquête indépendante au vitriol. L'instance européenne aurait dû surveiller, superviser et contribuer aux mesures de sécurité, avaient écrit des experts. Quels que soient les manquements des autres acteurs de l'événement, depuis la gestion des transports jusqu'à l'usage de gaz lacrymogène et de sprays au poivre contre des familles affolées. L'UEFA s'en était excusée, promettant d'introduire les changements appropriés tout en annonçant début mars le remboursement de tous les billets des supporters de Liverpool, sans oublier les supporters du Real Madrid et des autres spectateurs touchés par les difficultés d'accès au stade. Mais au cas par cas.
Eric, quelle leçon l'UEFA a-t-elle tirée ?
Le 5 mai dernier, l'instance a présenté une série de mesures pour renforcer la protection des supporters lors des 3 finales de compétition européenne, celle de Ligue des Champions le 10 juin à Istanbul, mais également de Ligue Europa le 31 mai à Budapest et de Ligue Europa Conférence le 7 juin à Prague. En plus d'une signalisation renforcée aux abords des stades, l'UEFA s'est engagée à déployer du personnel supplémentaire pour accueillir des spectateurs, notamment les familles et personnes handicapées, en intégrant les organisations de supporters dans la planification des rencontres. Enfin, l'UEFA promet de renforcer ses exigences en matière de candidature des pays hôtes sans que ce point crucial ne soit encore très détaillé.
Page des sports VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Malgré le démantèlement de l'Organisation de l'Unité africaine et la création de l'Union africaine, à sa suite, en 2002, le nom et la date de la Journée mondiale de l'Afrique ont été conservés pour célébrer l'unité de l'Afrique le 25 mai. Chaque année, cette journée est l'occasion de célébrer les avancées du continent et de mettre en avant les défis qu'il lui reste à relever. Pour le bilan et les perspectives, Idriss Fall a reçu dans nos studios Henri Nzouzi, analyste politique.
C'est un processus qui a commencé en 1963, qui s'est prolongé à partir de 2002 avec notamment l'arrivée de l'Union africaine. Dans un premier temps, on l'a vu pendant les 40 premières années, l'OUA s'est plus focalisé sur la décolonisation et sur la manière la plus efficace d'en finir avec l'apartheid. C'est la raison pour laquelle certains pays, comme notamment le Zimbabwe, le Mozambique et l'Angola, ont accédé à l'indépendance un peu plus tard. Pour autant, les objectifs qui avaient réuni les pères fondateurs n'ont pas vraiment été respectés, puisqu'il y avait bien évidemment le respect de l'intégrité territoriale des États, de leur souveraineté, une manière de venir en aide à ceux qui étaient en difficulté. Mis à part les pays que j'ai cités en matière de décolonisation, on ne peut pas dire vraiment que le bilan ait été à 100% positif, en dehors évidemment de certaines avancées qui ont pu être enregistrées ça et là.
On parle de ZLEC.
La zone de libre-échange continentale africaine qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2002, on sait que ce n'est pas toujours la panacée pour certains pays africains qui voient, malheureusement à travers cette initiative, qui reste quand même intéressante, une occasion de perdre, malheureusement, il faut bien le dire, une partie importante de leurs ressources douanières dans un contexte où certains pays sont mieux préparés que d'autres, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait à ce jour à peine 40 pays qui aient ratifié en fait cette convention.
Maintenant, il y a les blocages, les guerres, et celles qui actuellement en cours au Soudan, les guerres dans l'est du Congo, les guerres un peu partout.
Alors, ce sont des obstacles, effectivement, sur lesquels les pays africains doivent travailler raisonnablement. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au Soudan, on ne peut pas dire que l'Afrique soit très présente, notamment dans le processus de discussion ou de négociation. Ce sont plutôt les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui sont à la manœuvre, ce qui montre bien qu'au niveau du continent africain, il y a encore des disparités ou en tout cas une différence d'appréciation sur le sens à donner sur certains conflits. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience pour que les Africains puissent enfin être en capacité de régler eux-mêmes leurs propres conflits.
Mais le terrorisme gagne du terrain un peu partout.
C'est exact.
On a l'impression que l'Union africaine n'existe pas à ce niveau-là. Mais
bon, alors, à la décharge de l'Union africaine, on ne peut pas attendre tout d'elle. Il y a des organisations régionales et sous-régionales qui ont un certain nombre d'objectifs à atteindre, notamment en termes de libre circulation, en termes d'intégration économique. Certains ont franchi le pas, notamment de la résolution de certains conflits, en étant en première ligne pour essayer de trouver une solution. On l'a vu avec la CDAO, notamment dans le dossier de la Guinée, du Mali et du Burkina. Ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est quand même un pas qui va dans la bonne direction.
Henri Nzouzi, analyste politique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, poursuit sa visite d'État en Chine, prévue du 24 au 29 mai. Une visite très axée sur l'économie, au cours de laquelle M. Tshisekedi devrait renégocier un contrat signé en 2008 par son prédécesseur Joseph Kabila avec les autorités chinoises. Un contrat sous forme de troc, matière première congolaise contre investissement chinois dans des infrastructures en RDC, que M. Tshisekedi a récemment dénoncé. Pour une analyse, Mouamadou Mfa joint Germain Ngoy Chibambe, professeur au département des relations internationales à l'université de Lubumbashi en RDC.
Cette année, c'est une année électorale. Le chef de l'État se doit de faire quand même les bilans des comptes à la nation. la visite en Chine tombe à pic parce que depuis un certain temps, on critique de plus en plus ce que fait la Chine en RDC. Ce qu'on avait considéré comme étant le contrat du siècle, on arrive à un point où les désillusions sont vraiment nombreuses. Et le troisième élément du contexte, c'est que pratiquement notre pays est agressé par le voisin de l'Est avec leur suppôt. C'est ce contexte-là qui rend pertinente la visite de notre chef de l'État dans un pays qui est une puissance économique émergente, mais surtout un pays membre permanent du Conseil de sécurité.
Vous avez évoqué le fameux contrat du siècle signé en 2008 entre la Chine et le gouvernement de l'époque présidé par Joseph Kabila. Quel bilan peut-on faire de ce contrat?
Le bilan est vraiment mitigé. Le bilan est presque négatif. On a décrit avec raison le déséquilibre dans cet accord. Certains rapports qui ont été publiés, le rapport de l'ITIE, cellule de la coordination de la RDC. Dans ces rapports, on trouve pratiquement les éléments qui viennent encore d'appuyer l'Inspection générale des finances. On parle du déséquilibre, on parle du non-respect des engagements promis par le partenaire chinois. Et plus concrètement, il a été promis que se dégagent 3 milliards de dollars devant quitter la Chine vers la RDC. Il n'y aurait que 825 millions qui ont été déboursés. À ce jour, je ne peux même pas prendre un vélo pour quitter une ville vers une autre parce que les infrastructures routières promises dans ce contrat n'ont pas été exécutées.
Oui, mais le contrat a été signé en 2008, nous sommes en 2023. Comment ça se fait que pendant tout ce temps, que ce contrat n'ait pas été dénoncé?
À la vérité, il faut faire une lecture politique. C'est seulement en 2018 que l'ancien régime a pris fin. Ce contrat ayant été signé par l'ancien régime, pendant tout son règne, on ne pouvait pas le dénoncer. Mais à l'intérieur du pays, les voix ont commencé à s'élever. Les gens commençaient à décrier ce contrat, notamment les organisations de la société civile. En 2021 ou 2022, le Tshisekedi, lors d'un voyage à l'intérieur du pays, notamment dans la province de l'Alaba, il a décrié, il a reconnu ce déséquilibre issu de la signature de cet accord.
Comment est-ce que la RDC peut tirer meilleur profit de ce contrat et de manière générale de sa coopération avec la Chine?
Pour tirer un meilleur profit de ce contrat, il serait important qu'on le renégocie dans tous les sens, qu'on le revisite. J'ai appris que dans l'exécution de ce contrat, une étude de faisabilité a été donnée à un bureau d'études dont tous les actionnaires étaient des Chinois. Alors le résultat, sinon la présentation de conclusions ne peut qu'aller dans le sens de l'autre. Donc, à bien considérer sur le plan financier, je pense que même la Chine devient la grande banque du monde. S'il y a la vision, la recherche de la transparence pour que dans la négociation, il n'y ait pas de pratiques non pertinentes qui, à long terme, vont nuire aux intérêts de la RDC.
C'était Germain Ngoy Tshibambe, enseignant au département des relations internationales à l'université de Lubumbashi.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, le nombre de déplacés internes est estimé à plus de 2 millions, une situation due aux attaques armées que subit le pays depuis 2015. À Waïgouya, ville située à 180 km au nord de Ouagadougou, de nombreux déplacés ont été accueillis par des membres de leur famille, une situation synonyme de charges supplémentaires pour les familles hôtes. Notre correspondant Gildas Da est allé à la rencontre de la famille Porgo, qui reçoit depuis quelques années des dizaines de parents ayant fui leur village. Reportage.
6h du matin au domicile de Suleiman Porgo, c'est l'heure du petit déjeuner. Dans ce quartier de Waïgouya, et les gobelets dans lesquels thé et café sont servis sont prioritairement destinés aux femmes et aux enfants. C'en est ainsi chaque jour pour ces personnes qui ont dû fuir leur village. Chacune des histoires de ces déplacés est un drame. Awa Sawadogo a fui Tougou, son village situé à une vingtaine de kilomètres de là.
Ce sont des terroristes qui sont venus nous chasser. Nous étions tranquillement chez nous. Un matin, ils nous ont tout simplement chassés.
Tout comme Awa, Kadiso Bouda a aussi été chassé de Boulouga. Pour ces deux femmes et 10 des leurs, ce domicile est désormais le dernier abri.
On est parti sans rien du tout. Toute la famille est venue ici et c'est le propriétaire de cette maison qui nous abrite et nous nourrit.
Le chef de famille dont elle parle, c'est lui, Suleiman Porgo. L'homme et sa famille accueillent un nombre important de déplacés. Tout commence en 2020.
Avant, j'étais plus d'une soixantaine de personnes qui étaient venues ici. C'est vraiment pas facile, quoi. Mais on a tenté de gérer avec les moyens qu'on a.
Ainsi, il va réussir à caser de nombreux déplacés internes en louant des maisons dans des quartiers précaires. Mais à sa grande surprise, avec la récente attaque de Karma Village, 57 personnes. À nouveau, d'autres seront relogés ailleurs.
Mais l'autre partie est toujours là. Sur le plan nourriture, c'est la croix et la bannière. Moi, j'avais une famille de 15 personnes. Un simple bois, si vous payez 2000 francs de bois, c'est juste pour la journée. C'est fini, il faut payer encore pour le soir.
Le sac de riz de 50 kilos n'excède pas 4 repas. Mais ce n'est pas le seul casse-tête.
60 et quelques personnes, vous voyez cette terrasse. C'est ici que ces gens dorment. S'il n'y a pas de pluie, tout le monde dort ici. Et s'il y a une pluie, tout le monde rentre dans les maisons, vous voyez là, ça fait point.
De ce beau monde, certains ont une histoire qui fait froid dans le dos. C'est le cas de Sali, nom
d'emploi.
Un jour, les terroristes ont débarqué comme ça et commencé à tuer les gens du village. Nous n'avons pas pu résister. Ils étaient nombreux. Ils ont tué beaucoup de personnes. Mes frères ont été tués. Ensuite, ils l'ont pris. Ils m'ont amené en brousse. Ils me frappaient et me menaçaient à tout moment. C'était terrible et j'étais gravement blessé.
Par miracle, il va réussir à échapper à ces geôliers. Avec cependant d'importants sévices corporels, mais aussi une balle dans le dos lors de sa fuite.
J'ai fait 2 semaines de captivité et j'ai pu m'enfuir une nuit. J'ai marché pendant plusieurs jours pour arriver à Ouagadougou. Imaginez-vous, tu es chef de famille et tu te retrouves, toi et toute ta famille, à la charge d'un autre chef de famille. C'est grave. Ce qu'on veut, c'est de l'aide.
This is the Voice of America, Washington, D.C.
Un an après la fusillade qui a coûté la vie à 19 écoliers et 2 enseignants à Uvalde au Texas, le président Joe Biden appelle à l'adoption de lois sur la question des armes à feu qui limiteront l'accès aux fusils d'assaut. Un an plus tard, la situation n'a guère évolué. Anita Powell de la VOA a rencontré les leaders d'opinion. Le récit avec Arzuma Compaoré.
Tout a changé pour ces familles texanes il y a un an, lorsqu'un homme armé est arrivé à l'école primaire Rob avec un fusil automatique pour tuer 19 enfants et 2 enseignants. Lorsque le président Joe Biden s'est rendu dans la petite ville d'Uvalde, quelques jours plus tard, il a déclaré que les parents endeuillés n'avaient qu'une seule demande à formuler. Il s'est à nouveau exprimé à l'occasion de ce sinistre anniversaire.
Partout, nous avons entendu le même message. Faites quelque chose. Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Nous avons fait quelque chose par la suite, mais pas suffisamment.
Monsieur Biden cherche à obtenir le soutien du Congrès pour interdire les armes d'assaut de grande puissance et les chargeurs de grande capacité comme ceci. De nombreux républicains s'opposent aux mesures de contrôle des armes à feu, estimant qu'elles violent le 2e amendement de la Constitution américaine qui énonce le droit de porter des armes. En juin 2022, le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, s'est prononcé contre un projet de loi bipartisan visant à réduire la violence armée.
Lorsque vous désarmez les citoyens respectueux de la loi, ce qui se passe, c'est que les gens qui respectent les lois désarment. C'est presque par définition s'ils sont des citoyens respectueux de la loi. Mais les criminels ne suivent pas les lois. Et si vous désarmez toutes les victimes, le résultat est qu'il est plus facile pour les criminels de commettre leurs actes de destruction.
La Maison-Blanche a déclaré mercredi que le problème des fusillades de masse ne peut être résolu sans une action du Congrès. Karine Jean-Pierre est l'attachée de presse de la Maison-Blanche.
Le président a continué à mettre en œuvre des douzaines de mesures pour aider à réduire la violence armée et garder les armes de guerre hors des mains dangereuses. Il a continué à dire que ce n'était pas suffisant.
À Uvalde, la douleur persiste. Écoutons le maire Don McLaughlin.
Cette semaine est une semaine difficile. Nous ne pouvons même pas imaginer la douleur que ressentent les familles un an plus tard. Et nous nous rendons compte qu'on n'a toujours pas les réponses qu'il faut.
Certains ont transformé cette douleur en action politique, appelant la législature du Texas à interdire la vente des fusils d'assaut aux personnes de moins de 21 ans. Le gouverneur de l'État s'oppose à cette idée. Mercredi, le Sénat du Texas a marqué cet anniversaire. Dan Patrick est le vice-gouverneur du Texas.
Ce moment de silence pour la tragédie de Uvalde, les familles et les victimes. Merci à tous.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nous.